Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Jeu, l'émission bimensuelle où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo et de l'industrie du gaming. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Jeu, un épisode un petit peu particulier puisque je suis tout seul, puisque je suis dans un emploi du temps toujours un petit peu chahuté avec des couches, des cris et toutes ces joies qui viennent avec les bébés. Donc ça fait à peu près 15 jours que le petit est avec nous et évidemment notre vie est complètement chamboulée, ce qui ne veut pas dire que je ne peux pas faire des podcasts, hein. Il faudrait bien plus que ça pour me faire quitter cette activité que j'affectionne particulièrement, c'est-à-dire vous parler dans vos oreilles à vous. Mais oui, ça veut dire que c'est un petit peu plus compliqué d'organiser pour le moment. On va petit à petit revenir à un emploi du temps à peu près normal. Mais pour le moment, je vais faire un épisode tout seul où je vais vous livrer mes impressions et mes appréciations, mes analyses sur ce qui s'est passé jusqu'à maintenant en 2018. Et bah justement, c'est l'occasion de parler de plein de choses intéressantes, de Nintendo Labo, de Monster Hunter, de Dragon Ball FighterZ. Fighters, c'est comme ça qu'on le dit officiellement, des changements du Xbox Game Pass, de rumeurs d'acquisition de studios pour Microsoft. Et de plein d'autres petites news. Donc, écoutez, on va se lancer immédiatement avec l'annonce du Nintendo Labo qui a eu lieu en janvier. Je vais pas m'étendre sur cette news non plus parce que je pense que vous en avez beaucoup entendu parler déjà jusqu'à maintenant. Mais pour ceux qui vivraient dans une cave ou dans une caverne, le Nintendo Labo, donc, c'est un système dévoilé par Nintendo de jeux destinés aux enfants et aux grands-enfants, on va dire, où ils livrent des cartons prédécoupés qui vont se monter en différents objets. Alors, il y a un guidon de moto, une canne à pêche, il y a même une sorte de robot dans lequel on peut rentrer, enfin, d'exosquelette. Et ça va permettre, avec des systèmes de poulies, d'élastiques, qui utilisent les différents capteurs des manettes et de la machine, de la Switch, ça va permettre de faire différents types d'activités et de jeux. Ça a été à la fois bien reçu et à la fois un petit peu critiqué, bien reçu peut-être par les gens qui ont une vision un peu large du jeu vidéo et de Nintendo, et puis un peu critiqué par des joueurs qui attendent des jeux pour eux. Il est évident que ça, c'est pas un système qui s'adresse à tout le monde, c'est essentiellement pour les enfants, ils l'ont clairement dit dans leur communication, mais... c'est un truc qui est au moins intéressant et il y a beaucoup de gens qui se sont dit « Ah, Nintendo n'a plus vraiment ne s'intéresse plus aux core gamers », ce qui est assez inepte quand on voit l'année qui vient de s'écouler en 2017 et puis quand on voit ce qui est prévu pour les mois et les années à venir. Du côté de Nintendo, ils ont vraiment le vent en poupe et il est complètement cohérent avec la stratégie classique de Nintendo d'avoir ce type d'ouverture vers les autres joueurs. Là où il y a une crainte, je pense, c'est avec la Wii où on a peut-être été un petit peu trop à fond et uniquement vers le grand public. Là, je pense que c'est simplement une petite expérimentation et puis on va voir où ça va aller. À mon avis, c'est pas un truc qui va avoir un succès fou. Ça, c'est un petit truc de niche qui est sympa, qui permet à des gens de diversifier l'utilisation de la Switch Et c'est ce que veut faire Nintendo. Ils essayent des choses comme ça. On se souvient de Robbie le robot pour la NES, pour la Nintendo Entertainment System. Et puis on se souvient surtout que Nintendo est à l'origine une société qui fait des cartes à jouer, des Hanafuda, des cartes traditionnelles japonaises. Et bon, ils ont un ADN qui est plus large que le jeu vidéo strict de core gamer. Donc, et ce qui est important pour moi, c'est qu'ils n'abandonnent pas leur public de core gamer, et c'est clairement pas l'intention, je pense. Encore moins ici qu'avec la Wii à l'époque. Là, c'est vraiment un truc qu'ils font sur le côté en plus. Donc voilà, l'autre critique, c'était la question du prix. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, c'est un morceau de carton pour 70 euros ». Alors évidemment, il y a le fait que, d'une part, il y a le jeu qui vient avec. Et d'ailleurs, ils ont annoncé qu'il y avait aussi un élément Nintendo Labo Toy-Con Garage, c'est-à-dire les Toy-Con, c'est les jouets en carton dont on parle, et la version garage, c'est un petit peu un moyen de faire des choses soi-même, pas d'utiliser uniquement les jouets qu'ils ont conçus eux, mais d'essayer d'en concevoir nous aussi, et d'utiliser différents morceaux de carton, d'expérimenter. C'est un petit peu une sorte de Lego ou de mécano, en tout cas dans l'idée, hein, pour les enfants. Et c'est quelque chose de vraiment intéressant pour ce public, à mon sens. Il y a des choses qui pourraient, enfin potentiellement, si ça fonctionne bien, qui pourraient être vraiment intéressantes. Donc, pour revenir à la question du prix, évidemment, on ne paye pas que le carton, c'est une caricature un petit peu ridicule. On paye pour le jeu, parce qu'il y a quand même un jeu qui vient avec, et puis on paye aussi pour la recherche, pour le succès de la Switch, pour le risque qu'a pris Nintendo, pour le marketing. Enfin, dire 70 euros pour un morceau de carton, c'est évidemment ridicule. Et je pense que si on aimait ce genre... Il y a plein de critiques qu'on peut émettre à l'égard de Nintendo, mais ce genre de critique n'a vraiment pas lieu d'être. Donc ça, c'était la petite parenthèse pour Nintendo Labo. Parlons des jeux, et pour dire d'une part que déjà 2018 commence sur les chapeaux de roue. On avait eu une année 2016 vraiment de bonne facture, une année 2017, on l'a assez dit, absolument incroyable, et 2018, on a déjà une petite série de jeux qui laisse présager d'une année assez mémorable également, à commencer par, évidemment, Monster Hunter World, qui a pris le monde dans ses bras et qui le berce délicatement au bruit et au son des cris de monstres divers qu'il faut chasser, attraper et tuer. Peut-être qu'il va y avoir plus de métaphores de bébés, je parle de bercer, hein, évidemment, dans mon vocabulaire à partir de maintenant. Et donc, je dis que le monde a répondu à l'appel de Capcom, puisqu'ils ont annoncé qu'il s'est déjà vendu 6 millions d'unités de Monster Hunter World, ce qui est évidemment un chiffre monumental. On sait que Monster Hunter est une série qui a connu un immense succès au Japon, mais vraiment un succès monumental depuis une dizaine d'années, un petit peu plus, même presque 15 ans maintenant. La série avait débuté sur PlayStation 2, si je ne m'abuse. Elle avait transitionné sur la PSP, et puis elle avait trouvé un petit coin cosy chez Nintendo sur la 3DS, et donc c'est le retour aux consoles de salon et à la console chez une console de Sony. Et ça a motivé des ventes de PS4 au Japon, etc. Il y a eu des queues immenses. Donc, succès au Japon attendu, mais surtout succès dans le reste du monde également. Les reviews sont absolument dithyrambiques. Les retours des joueurs sont également extrêmement positifs. Il y a énormément de gens qui ont découvert la série avec cet opus qui promettait d'être plus accessible que les autres. Visiblement, la promesse est tenue. C'est un succès absolument indéniable, et non seulement un succès commercial, mais en plus, vraiment, j'insiste sur ce point, un succès critique. Il y a, et de la part des professionnels et des journalistes, et de la part des joueurs, une découverte de ce titre qui est claire et qui fait beaucoup de bruit. Donc, ça, c'est pour ce qui s'est passé dans le monde, on va dire. Moi, j'y ai joué également. J'ai réussi à trouver le temps entre les siestes et les changements de couches pour y mettre quelques heures. J'ai dû jouer une quinzaine d'heures déjà quand même. Et j'ai été assez... je vais pas dire séduit, c'est un mot un peu fort, mais assez intéressé. C'est la première fois que je comprends un petit peu la boucle de gameplay et l'intérêt de Monster Hunter. Je suis pas complètement amoureux du jeu comme beaucoup d'autres parmi mes amis, parmi les patriotes qui en discutent dans le Slack notamment du Rendez-vous Tech. Il y a beaucoup de gens qui sont devenus complètement accros. Moi, je suis pas encore à ce stade et je suspecte que ça va peut-être arriver, mais déjà, je comprends le jeu d'une manière que je n'avais jamais réussi à comprendre. J'en parlais dans l'émission régulièrement. Pour moi, il restait très opaque, très obscur, très fermé. Et là, je comprends la boucle de gameplay, je comprends l'intérêt et j'ai envie d'y retourner. Ce qui est déjà quelque chose de très positif par rapport à mes expériences précédentes avec la série. Pour ceux qui n'y auraient pas joué et qui cherchent une première impression pour se décider à peut-être y aller ou peut-être pas, je dirais que le jeu a quand même de gros problèmes. Il y a un intérêt certain de la boucle de gameplay qui est, à mon sens, une des manières dont je peux le décrire. Je pense que c'est pas complètement juste, mais c'est une approximation pour essayer de vous donner une idée de ce que c'est. Pour moi, c'est un petit peu une sorte de Diablo boss rush. C'est-à-dire que on doit se battre essentiellement, il y a des petites créatures, mais c'est essentiellement des combats de boss, des combats très longs où il faut trouver les points faibles des créatures, et se concentrer là-dessus, maîtriser les coups qui sont à notre disposition. Et une fois qu'on a fait ça, récupérer le loot, donc les ingrédients, les éléments de craft, et construire et fabriquer des armures pour pouvoir aller combattre des monstres encore plus forts et encore plus puissants. Et donc c'est vraiment, on a, je sais pas, 15-20 boss dans le jeu, et c'est l'essentiel du gameplay. On va aller se battre contre un boss et on va récupérer son loot et fabriquer des armures. Et donc, si on n'a pas eu assez de telle partie du monstre, tel os, tel écaille, tel truc, on va retourner en tuer d'autres pour avoir plus de matériaux pour faire notre armure complète. Et puis, on veut tel type d'armure et tel type d'armure. Donc, on va chasser tel monstre spécifiquement. Et plus on a des bonnes armures, plus on comprend la manière dont le monstre agit, les coups qu'il va faire, les mouvements, les déplacements, plus on va facilement réussir à le battre. Et donc, il y a toute cette mécanique de loot et de chasse qui se transforme en un cycle vertueux auquel on prend beaucoup de plaisir. Et en plus de ça, il y a les 14 armes dont vous avez sans doute entendu parler, 14 armes au gameplay très différent, qui permettent de modifier le type de jeu presque. C'est un petit peu comme, je dirais, dans un jeu de combat, quand on change de personnage et qu'il y a un personnage vraiment différent, et ben, ou une classe dans un Diablo ou dans un MMORPG ou ce genre de choses, c'est vraiment un gameplay tellement différent que c'est presque un autre jeu. Et donc là, il y a 14 armes très 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 différentes. Ça, c'est la boucle de gameplay de base, qui est, et oui, on peut jouer en équipe aussi, en groupe, en multi, donc jusqu'à 4 joueurs en même temps pour combattre les monstres ou le monstre. Il y a tout un système de récolte de ressources aussi qui est, je vais pas dire accessoire, mais enfin, qui est pas le cœur du gameplay. Et le jeu en ligne est important aussi. À côté de ça, je dirais qu'il souffre quand même, ça c'est des éléments dont on ne parle pas beaucoup, dont j'ai pas beaucoup entendu parler, mais il souffre de son japonisme dans la conception de certains éléments du jeu. Les menus, par exemple, sont absolument immondes. L'interface utilisateur, l'expérience utilisateur, même si elle est améliorée par rapport aux épisodes précédents, est quand même particulièrement absconde. C'est compliqué à comprendre. Les menus sont faits bizarrement. Il y a des manipulations qui, une fois qu'on s'y habitue, fonctionnent, mais enfin qui vraiment sont des conventions. C'est même pas une question de convention japonaise ou occidentale, même si ça joue un petit peu. Mais je suis convaincu que si on avait donné ce type d'interface à concevoir pour faire les mêmes choses à un développeur qui avait un petit peu plus d'expérience en Occident, il aurait réussi réussi à faire quelque chose d'aussi fonctionnel, mais de beaucoup moins, on dit en anglais, convoluted. C'est juste, il y a des trucs, il faut presser trois boutons, aller dans tel menu, il y a le, je donne un exemple, c'est les notes de chasseurs qu'on a sur les bêtes qu'on doit traquer et qu'on doit tuer, et ça donne des informations importantes au fur et à mesure qu'on les accumule, qu'on les découvre, sur la, les points forts, les points faibles, la manière d'approcher les monstres. Pour y accéder, il faut aller dans un menu qui est un petit peu caché. Il y a les objets pour les mettre. Enfin bref, je vais pas vous faire tout un vous décrire tous les éléments étranges de ce jeu, mais enfin, ne serait-ce que pour partir dans une quête, il faut poster une quête publiquement pour lancer la quête. Enfin, c'est hyper, hyper étrangement fait. Et on nous indique pas bien comment marchent les choses. Il faut aller explorer soi-même, ce qui a son charme aussi. Hein, je dis pas le contraire, mais franchement, c'est loin d'être idéal. Je voudrais dire un petit mot aussi sur la comparaison avec Dark Souls, parce que quand certains joueurs qui sont moins familiers avec les deux séries disent « Ah, il y a un petit élément de Dark Souls quand même », il y a des joueurs de Dark Souls qui viennent nous dire avec un air, je trouve, un petit peu snob « Ah, mais non, mais ça n'a rien à voir, pas du tout !» Alors que, oui, dans le détail, c'est pas la même chose, mais le fait que les animations des coups qu'on va donner prennent si longtemps et qu'on soit coincé dans l'animation pendant si longtemps, avec certaines armes, hein, pas avec toutes, mais qu'on soit coincé pendant si longtemps, veut dire qu'il faut vraiment bien préméditer ses coups, observer les mouvements de l'ennemi, choisir à quel moment on va lancer le coup qui va abattre l'épée au bout de 3 secondes de préparation sur l'ennemi et puis 2 secondes ensuite pour la relever pour reprendre le contrôle du personnage. Je suis désolé, mais ça, c'est effectivement des éléments assez Dark Souls-esques. Voilà, c'est quelque chose qui est, à mon sens, assez évident. Et dire « Ah, mais non, pas du tout, c'est n'importe quoi », et presque un petit peu rire des gens qui comparent les deux, ça me paraît très malvenu, parce que c'est d'une... Oui, c'est pas les mêmes jeux, évidemment, mais il y a certains éléments qui se retrouvent là aussi, évidemment. Donc, faire cette comparaison n'est pas du tout quelque chose de d'inapproprié. Bref, Monster Hunter World, clairement une réussite commerciale, critique, et dans le jeu lui-même, il y a quelque chose d'assez spécial qui se forme. Moi, je vais continuer à y jouer, j'espère. J'espère que je trouverai ce... Je suis pas encore au déclic, en fait. J'espère que je trouverai ce déclic et que je vais tomber moi aussi amoureux du jeu. Pour le moment, je le trouve sympa et c'est déjà pas mal pour un jeu dans lequel j'avais pas du tout réussi à rentrer auparavant. J'ai envie d'y retourner, donc voilà. J'espère que ça vous donnera un petit éclairage sur le jeu si vous l'avez pas encore, peut-être pour vous décider à sauter le pas ou pas. Et en parlant de succès de ce début d'année, il faut bien sûr évoquer Dragon Ball Fighters, c'est la prononciation officielle, hein, Dragon Ball Fighters, qu'on avait déjà évoqué il y a quelques épisodes, mais qui là donc est évidemment sorti. Et qui est lui aussi un succès assez retentissant pour le contexte d'un jeu de combat basé sur un animé. En France, on sait qu'on est très nippophile et il a connu un succès beaucoup plus important qu'ailleurs. Mais d'une manière générale, dans le monde, il s'est déjà vendu à plus de 2 millions d'unités. Pour donner un petit peu le contexte, un jeu comme Street Fighter V qui s'était planté à son lancement, mais qui a quand même, qui est quand même évidemment le roi des jeux de combat, avait vendu 2 millions au bout de 2 ans quasiment d'existence. Donc évidemment, Dragon Ball Fighters, 2 millions en quelques jours, c'est un succès incontestable. Et le jeu en lui-même, là aussi, j'ai réussi à passer quelques heures dessus, peut-être un petit peu moins que sur Monster Hunter World, mais j'ai été très agréablement surpris. Alors le jeu, on sait qu'il était impressionnant graphiquement, qu'il était au niveau du gameplay... C'est peut-être un petit peu moins technique qu'un jeu comme King of Fighters ou Street Fighter, mais on s'approche un peu du type de jeu de, on va dire, Marvel versus Capcom. C'est ce type de jeu de rushdown, de grosses combos, etc. Mais il est à la fois accessible avec ses autocombos et assez complexe par d'autres biais. C'est-à-dire que la complexité va venir du type de quel coup on va utiliser pour continuer une combo pendant un juggle dans les airs, si on va faire une annulation d'animation, un animation cancel pour sauter ou pas, quel coup peuvent... Enfin bref, il y a des complexités quand même techniques. Mais au-delà de ça, moi, ce qui m'a agréablement surpris, c'est l'aspect solo qui est vraiment sympa. J'ai joué en solo. Il y a eu un mode histoire qui est franchement pas mal du tout, qui est assez long. Hein. Moi, il est divisé en trois parties. J'ai fait la première partie, ça m'a pris un bon petit moment. Et c'est vraiment l'ambiance Dragon Ball. Pour les fans de Dragon Ball, c'est on se retrouve immergé dans le truc et on prend un vrai plaisir à jouer, à suivre l'histoire qui est un petit peu bête, mais à jouer et à manipuler les personnages vraiment comme ça serait le cas dans le dessin animé. Avec, on sent qu'ils sont vraiment amoureux de la licence chez Arc Systems, ou en tout cas qu'ils ont fait leur devoir, qu'ils ont fait leur travail, et ils ont des petits clins d'œil aux fans de la série, des petites conversations vraiment comiques. C'est, à mon sens, un travail d'orfèvre qu'ils ont fait sur ce jeu et qui mérite vraiment qu'on s'y intéresse. Alors, qui... J'aime bien toujours dire pour qui ce type de jeu, à qui ce type de jeu est destiné ou qui devrait s'y intéresser. Moi, je dirais quand même que, contrairement à Monster Hunter World, qui peut intéresser à peu près tout le monde, à moins qu'on soit absolument allergique à ce type de jeu, Dragon Ball FighterZ, c'est quand même pour un public un peu plus restreint. Je dirais que si on est fan de Dragon Ball ou de Dragon Ball Z, évidemment, c'est un jeu qu'on doit investiguer, hein, c'est quelque chose qui est un événement pour les fans de la série et du dessin animé. Si on est très très fan de jeux de combat, vraiment si on joue à tous les jeux de combat, je pense aussi que c'est un jeu qui vaut la peine d'être acheté. Pour le reste, je dirais que si vous n'êtes ni fan de Dragon Ball, ni fan de jeux de combat, clairement, c'est pas un jeu pour vous, quoi. C'est pas un jeu qui dépasse les limites de son genre et qui devient incontournable, quel que soit le type de jeu vidéo qu'on aime. Je dis pas que vous ne l'aimerez pas si vous n'aimez pas Dragon Ball ou les jeux de combat. Il est quand même assez accessible. Il y a, comme je le disais, des auto-combos qui marchent très bien, le système de manipulation, enfin le système de jeu est vraiment simple pour un jeu de combat. On peut s'amuser et faire des trucs qui explosent tout l'écran assez facilement. Mais bon, le plaisir qu'on en retire, au-delà de la mécanique de taper sur l'autre qui est présente dans tous les jeux de combat, c'est vraiment un plaisir qui est destiné aux fans de la série. Donc voilà, si la série vous parle pas, je dirais passez votre chemin, à moins que vraiment les graphismes vous éblouissent, quoi. Donc bon, ça c'est pour Dragon Ball FighterZ, vraiment un bon cru là encore. Je voulais mentionner aussi, j'ai évoqué Street Fighter V, le chiffre de 2 millions, c'était avant la sortie de l'arcade édition qui est sorti un petit peu plus tôt que Monster Hunter et Dragon Ball FighterZ en janvier. Et l'arcade édition, pour ceux qui s'en souviennent pas, c'est une mise à jour de Street Fighter V qui est gratuite pour tous les possesseurs de Street Fighter V et qui ajoute le mode arcade et différentes petites choses en jeu. Et qui, si on l'achète, si on n'avait pas le jeu avant et qu'on l'achète, ça coûte 40 €. Eh bien, ça inclut tous les personnages des deux premières saisons, en plus des personnages de base. Ce qui fait, je crois qu'il y en avait 16 au départ et 6 à chaque saison, donc 16 plus 12, 28 personnages pour un jeu qui n'a plus de problème de réseau, qui n'a plus de soucis notables comme absence d'un mode arcade, absence d'un mode histoire. Ils ont plein de modes maintenant. Franchement, c'est un excellent deal. En plus, pour les gens qui ont déjà acheté le jeu, les prix des personnages des saisons précédentes sont plus bas maintenant. Je crois que c'est genre 10 € pour la saison 1 et 15 pour la saison 2. Donc, c'est 6 personnages ou 12 personnages pour 25 €, c'est un bon deal. en plus des 16 de base évidemment. Franchement, c'est devenu un jeu absolument admirable. Alors, il a fallu 2 ans, et ça, c'est absolument critiquable. C'est indéniable, hein, personne ne le conteste. Mais aujourd'hui, il est, c'est un super jeu. La mécanique de base du jeu a toujours été hyper saine. Vraiment, un excellent, excellent jeu maintenant. Street Fighter V, Arcade Edition, c'est un jeu que je pourrais recommander à tout le monde et que je recommanderais si il n'y avait pas en plus 2 autres jeux énormes qui sont sortis en janvier. Et c'est vraiment ici une domination du mois de janvier du Japon, et je pense que, bon, Street Fighter V mis à part parce que c'est une mise à jour, mais c'est déjà des jeux dont on va reparler, je crois, au moment de faire les bilans de l'année, et on est que mi-février, quoi. Donc, voilà, c'est une première série particulièrement comment dire, positive pour 2018. Et c'est même pas fini. Ah oui, je voulais aussi mentionner le fait que Dragon Ball FighterZ a déjà gagné quelques lettres de noblesse, puisqu'il sera présent dans le line-up de l'Evo 2018. Evo étant le grand, grand tournoi de jeux de combat d'e-sport bah, du monde, quoi. Donc, il y aura évidemment Street Fighter V, hein, ça c'est classique. Super Smash Bros. Melee, qui est toujours présent. Et entre autres, hein, il y en a d'autres, mais aussi Dragon Ball FighterZ. Je crois que Tekken 7 devrait y être également. Donc voilà, Dragon Ball FighterZ, oui c'est le cas, hein. Tekken 7 y est aussi. Donc Dragon Ball FighterZ intronisé à l'Evo 2018. Donc voilà, on a déjà un certain nombre de jeux de d'immense qualité pour le mois de janvier, mais c'est pas fini. Alors je pourrais évoquer They Are Billions, qui est un jeu sur Steam, qui est en Early Access, une sorte de survival RTS, qui est assez sympa, que les gens ont l'air d'apprécier. Il a fait un petit peu de bruit début janvier. Bon, c'est sympa, voilà, je pourrais vous en parler plus, mais je vais préférer vous parler plutôt de Celeste, qui est encore un excellent jeu qui est sorti, là, vraiment sorti, c'est pas de l'Early Access, il est dispo sur différentes plateformes, dont la Switch, qui est une plateforme assez idéale pour ce jeu. C'est un jeu qui est vraiment intéressant parce que c'est un die and retry, vous savez, ces jeux assez difficiles, assez sévères, qui du type, je sais pas, Super Meat Boy ou ce genre de choses, qui est différent de la ces jeux généralement, parce que oui, entre parenthèses, c'est développé par Matt Makes Games, donc un petit indé, une toute petite équipe, qui c'est ceux qui ont fait Towerfall, qui est bon, un jeu, si vous connaissez ce jeu, vous vous en souviendrez avec émotion, c'était un jeu vraiment sympa. Et donc, c'est un die and retry qui est un petit peu différent des die and retry classiques. Alors, c'est de l'indé, c'est du pixel graphique, c'est difficile, on a des tableaux qu'il faut traverser et il faut de la manipulation de précision. On joue un petit personnage qui s'appelle Madeline, qui veut escalader la montagne céleste. Et il faut, pour traverser chaque tableau, on a des sauts, des dashs, on peut s'accrocher au mur pour un certain temps, et on a évidemment énormément d'obstacles, des pics, des machins qui vont nous écraser, tous les poncifs de ce type de jeu. Et le truc, c'est que il y a 2 éléments qui sont vraiment convaincants pour les gens qui sont pas adeptes de ce type de jeu généralement, et c'est mon cas. D'une part, c'est pas un jeu sadique. C'est pas un jeu qui se complaît dans la misère qu'il inflige à ses joueurs. C'est un jeu, au contraire, qui vous encourage et qui vous récompense. D'une part, ils disent très clairement, le jeu est censé être difficile, mais si vous n'avez pas le temps ou le courage ou envie de faire les efforts de jouer en mode difficile, on a un mode facile et n'hésitez pas à y aller, n'hésitez pas à utiliser ce mode. Vraiment, il n'y a aucune honte à avoir. Ils vous disent aussi, soyez fiers du nombre de morts que vous avez, parce qu'on meurt genre sur chaque tableau 10, 15, 20, 30 fois pour réussir à le passer. Et ils disent, n'ayez pas honte devant le nombre de morts. Au contraire, vous apprenez au fur et à mesure que vous mourrez. Chaque mort, c'est un truc qui vous fait progresser. Et donc, on a vu des gens partager sur Twitter leur nombre de morts, etc. Ils ont des petits challenge supplémentaire, il y a dans certains, enfin dans la plupart des stages, il y a une fraise qu'on peut aller chercher mais qui est plus difficile d'accès, et ils disent alors les fraises c'est pour faire le fier auprès de vos amis, mais c'est tout hein, si vous voulez pas les récupérer aucun problème, vous avez pas besoin. Donc toute cette vraiment, je vais pas dire gentillesse parce que ça fait bisounours, mais cette bienveillance du développeur vous accueille dans ces jeux, dans ce jeu vraiment difficile, et vous encourage plutôt que ne vous brime. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose de précieux qui est le genre de choses que j'aime pas vraiment les jeux sadiques, et moi je suis pas maso, et je sais que les gens vont dire oui mais c'est pas ça les jeux. Alors, on prend encore l'exemple de Dark Souls, mais il y a pas que celui-là, il y a évidemment comme j'évoquais Super Meat Boy, et il y en a d'autres. J'aime pas les jeux qui vont me taper sur la tête et me dire « Ah, bah t'es mort, hein, t'as vu, t'es nul. Ouais, bah voilà, tu seras nul jusqu'à ce que tu sois bon. » Je sais qu'il y a des gens qui apprécient l'effort nécessaire pour ce type de jeu. Moi, c'est pas un truc qui me parle. Je suis peut-être un petit peu plus, comment dire, un petit peu plus fragile, et j'ai besoin, ou pas besoin, mais j'apprécie un truc qui va m'accompagner et qui va m'encourager plus que me pointer du doigt et rire, quoi. Et Céleste, vraiment, il y a cette bienveillance. Et pourtant, le jeu est pas facile du tout, hein. On a cette mécanique qui, là, pour le coup, est commune au jeu de masochiste et de sadique et de sadiste, je sais pas, ces jeux sadomaso et les jeux type vraiment difficiles à challenge, type Dark Souls, où c'est vraiment le joueur qui va devenir meilleur. On apprend à apprivoiser les conventions du jeu, on apprend à apprivoiser le gameplay, les manipulations, les contrôles du jeu. Et c'est vraiment le joueur, j'avais évoqué ça, je crois, en parlant de Mario, Super Mario Odyssey, avec le dernier niveau, qui au début semble absolument impossible. Et puis à force, on a tellement intégré les mécaniques au cours du jeu, et on s'entraîne tellement, et le jeu lui-même nous entraîne tellement, qu'au bout d'un moment, ce niveau qui semblait impossible devient pas trivial, mais enfin, on le fait avec une aisance incroyable, parce que nous, en tant que joueurs, on a réussi à maîtriser, à apprivoiser le jeu. Et ben là, c'est vraiment ce type de mécanique, qu'encore une fois, qu'apprécient beaucoup les joueurs qui aiment ce type de jeu. Dans Céleste, on a c'est le joueur qui devient meilleur, c'est pas le jeu qui va vous donner plus de points de vie ou plus de capacités pour vous faciliter le travail. Là, c'est le joueur qui maîtrise le truc. Alors pour moi, il y a toujours un élément de bah oui, j'ai appris à maîtriser ça, j'aurais pu apprendre à maîtriser autre chose, j'aurais pu apprendre à faire je sais pas moi, poncer, nettoyer, pour ceux que ça à qui ça parle. On peut apprendre à faire n'importe quoi, par la répétition on devient meilleur, et si c'est frustrant, c'est pas la peine. Mais là, sur Céleste, c'est pas frustrant, justement. Donc il y a cet élément, et puis il y a tout l'aspect narratif qui est vraiment poétique et émouvant. Il y a le petit personnage donc de Madeline qui, je vais pas vous spoiler le truc, mais il y a une narration derrière qui est pas l'histoire enfin la plus grande histoire de l'histoire justement, mais qui est vraiment touchant, je dirais. Donc voilà, c'est pour Céleste sur Switch, ça vaut vraiment le coup, c'est 20€. Si vous êtes curieux de ce type de jeu, je pense que c'est une excellente porte d'entrée dans ce genre de jeu assez populaire. On boit un petit coup et on continue. Bah dites-moi, rien que pour parler des jeux de 2018, on a déjà passé une demi-heure. Moi, je pensais faire beaucoup moins, mais je pense que ça vaut clairement le coup de passer du temps sur ces gros succès déjà. Parlons ensuite de Microsoft et de la Xbox, et des annonces et des rumeurs autour de la console et du service Xbox. D'une part, le Xbox Game Pass intégrera désormais tous les jeux exclusifs Xbox au moment où ils seront disponibles. Alors pour ceux qui s'en souviennent pas, le Xbox Game Pass, c'est un peu la réponse ou là la version de Microsoft du service de du Netflix du jeu vidéo. C'est un petit peu comme le PlayStation Now, le service de Sony où on va payer un abonnement mensuel et on va pouvoir streamer les jeux, donc pas les downloader, les installer, mais streamer directement depuis leur serveur. Donc si on n'a pas une grosse bande passante, ben c'est ça marche pas vraiment. Mais par contre, la manière dont le fait aujourd'hui Microsoft, c'est qu'on va s'abonner et puis on peut simplement télécharger les jeux. C'est un petit peu plus proche du PlayStation Plus ou même du Xbox Live où on a des jeux auxquels on a droit chaque mois et on peut les télécharger et on peut y jouer normalement comme on veut. Bah là, le Xbox Game Pass, on paye, je crois que c'est une dizaine d'euros en plus du Xbox Live, hein, mais c'est une dizaine d'euros et tous les jeux du catalogue, il y en a, je sais plus, 300 ou quelque chose comme ça, peut-être un peu moins sur Xbox parce qu'ils ont commencé il y a moins longtemps, mais il y a plein de jeux Xbox One, Xbox 360, et on peut les télécharger et les installer autant qu'on veut, tant qu'on est abonné au service. Et donc, ils ont annoncé que désormais, tous les jeux exclusifs seront disponibles dès le lancement. Alors, c'est vraiment une annonce intéressante parce que, d'une part, ça rend le service hyper intéressant. Alors, hyper intéressant, il faudrait qu'il y ait plus de jeux exclusifs Xbox, c'est le problème dont on parle depuis bien longtemps, depuis des mois voire des années maintenant, c'est le gros talon d'Achille de la Xbox One. Les jeux exclusifs sont soit pas aussi enthousiasmants qu'on pourrait l'espérer, soit même carrément absents. On voit que sur 2017 et 2018, ils ont été assez peu nombreux et les perspectives sont pas hyper positives. Donc c'est clairement un souci sur ce service qu'ils sont en train de mettre en place. Mais il n'empêche que sur le principe, on va quand même avoir Sea of Thieves au moment de la sortie, State of Decay 2, Crackdown 3. Alors c'est pas des jeux qui les plus grands jeux de l'histoire, mais il n'empêche, ils sont disponibles tout de suite et vous n'avez à payer que 10€ par mois. Donc, si on dit 10€ par mois, ça veut dire 120€ par an, ça veut dire deux jeux par an. Si ces deux jeux sont dans le pass, bah vous êtes tout à coup complètement... c'est hyper intéressant financièrement de s'abonner à ce truc-là. Là où ça devient, ça pose des questions vraiment intéressantes, c'est que si ce type de service se développe... est-ce que c'est intéressant pour un développeur tiers d'être intégré au service? Parce que combien ça va leur rapporter? C'est toute la question du streaming. On s'est posé la question avec la musique et les services type Spotify, Apple Music, etc. Est-ce que ça rapporte assez? Comment vont se faire les deals entre Microsoft et les éditeurs tiers? Est-ce que ça veut dire que si on se met à avoir ce type de service et qu'on ne veut plus acheter les jeux au prix fort et qu'on voudrait qu'ils soient intégrés à ces services, comment ça va impacter les budgets? Bon, moi je crois que c'est vraiment particulier à Microsoft et à leur situation aujourd'hui. Je suis pas certain que ça devienne le standard, ou en tout cas pas tout de suite. On a encore un petit peu de temps avant de se poser vraiment ces questions. Mais on a entendu des gens, des développeurs dire bah le service de Sony, le PlayStation Now, maintenant n'est plus négligeable dans les rentrées financières qu'il représente. C'est pas gros, mais c'est pas négligeable non plus. Donc ça commence petit à petit. On sait.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Que Microsoft travaille également au fait de proposer un service d'abonnement plus comparable au streaming vidéo qu'on a sur le PlayStation Now ou sur Netflix, ce genre de choses. Ils ont d'ailleurs acheté une plateforme qui s'appelle PlayFab, qui faisait ce genre de choses, du cloud gaming, on va dire. Et ils ont annoncé qu'ils voulaient, dans les années à venir, proposer ce type de service aussi. Donc, on a clairement une orientation dans cette direction. Le Xbox Game Pass est un premier pas dans cette direction. Et là où ça devient vraiment intéressant, c'est qu'on a eu des rumeurs selon lesquelles Microsoft pourrait acheter un ou des studios pour pallier à son problème d'exclusivité et de jeux exclusifs. Alors, il y a plein de noms qui ont été lancés à droite à gauche. On a notamment le nom de EA qui a été évoqué. On sait que Microsoft a de quoi. On sait que Satya Nadella, le président de Microsoft, a annoncé qu'il voulait être un plus gros joueur dans l'industrie du jeu vidéo à l'avenir, donc renforcer leur position. On sait que Phil Spencer a été promu et il fait maintenant partie des pontes de Microsoft. Donc il y a vraiment une intention de Microsoft maintenant qu'ils ont nettoyé leur business dans les autres parties de leur business, de se reconcentrer sur le jeu vidéo. Donc pourquoi pas le fait d'acheter EA, qui est un énorme éditeur et qui a énormément de propriété intellectuelle et de savoir-faire surtout à son actif, malgré les problèmes divers qu'on a pu évoquer l'année dernière et au cours de la vie d'EA pour ses pratiques pas toujours hyper recommandables, mais c'est quand même un énorme morceau de l'industrie et ça serait vraiment un trésor pour Microsoft. Bon, c'est quand même un gros morceau à avaler, donc il n'est pas certain que ça soit possible. On a évoqué Steam aussi, mais Steam, il faut se souvenir que c'est une société privée. Ils ne sont pas listés sur la bourse, donc pour les acheter, il faudrait que... Enfin, Steam, je veux dire Valve, évidemment, hein, mais pour les acheter, il faudrait que Valve veuille se vendre à Microsoft. Et entre parenthèses, Gabe Newell est un ancien employé de Microsoft, donc il n'est pas certain qu'il veuille y retourner, encore que peut-être qu'il voudrait récupérer beaucoup d'argent et puis partir sur une île tranquillement, on ne sait pas. Mais bon, c'est des conditions un petit peu différentes pour Valve. Il y en a d'autres hein, qu'on pourrait évoquer, mais ces rumeurs semblent ne pas... On semble être dans un domaine de... il n'y a pas de fumée sans feu plus que des rumeurs ridicules. Alors, EA, c'est un petit peu de la fumée sans feu, mais le rachat d'un studio serait cohérent avec la situation, le contexte et la stratégie de Microsoft aujourd'hui. Le rachat d'un ou plusieurs studios. Ils ont besoin clairement de jeux exclusifs et ça serait un moyen plutôt que de commencer à monter des équipes eux-mêmes. Ça prend des années et des années à monter. Racheter des studios, ça serait plus simple. Il faut bien sûr évoquer la question du PC parce que on sait que la Xbox est censée être une marque qui est à la fois la console et le service sur PC. Donc si ces jeux deviennent disponibles exclusivement Xbox et qu'ils seront aussi disponibles sur PC, c'est pas du tout impossible, c'est la stratégie en tout cas de Microsoft jusqu'à maintenant. Donc à voir ce que ça donne à l'avenir, mais c'est des rumeurs vraiment intéressantes et qui pour moi sont des rumeurs, comment dire, c'est des bons signes, voilà, c'est des bons signes plus que des rumeurs parce que on le dit depuis maintenant 2-3 ans, Microsoft a un énorme problème avec la Xbox et le catalogue de la Xbox. Et là, ça montre qu'il s'attaque enfin au problème. Donc, on risque d'avoir une de bonnes surprises dans les... Peut-être que 7-3, c'est un petit peu tôt, mais dans l'année à venir, l'année, les 18 mois à venir. Du coup, on se demande qu'est-ce que ça veut dire pour la marque, pour la Xbox One, cette génération de consoles. Je vous avoue que je sais pas trop, parce que s'ils commencent à sortir des exclusifs incroyables d'ici 12 à 18 mois, est-ce que c'est pas trop tard? Mais en même temps, est-ce que ces jeux seront pas aussi disponibles sur une future console dont moi je suis convaincu qu'il y aura une autre génération? Très certainement côté PlayStation. Sur Xbox, ça semble être plus évolutif, hein, leur nouvelle machine. Mais ils viennent de sortir la Xbox One, donc on va pas non plus en ressortir tous les ans ou tous les deux ans, c'est un petit peu trop tôt. Bref, on verra. En tout cas, bonne nouvelle du côté, bonne perspective du côté de Microsoft. Quelques petites news supplémentaires un petit peu plus rapides, et on commence par des dates qui ont été annoncées. Alors, d'une part, God of War, exclusif PlayStation bien sûr, à sa date de sortie, le 20 avril. Le 20 avril, c'est bientôt, hein, c'est dans deux mois à peine, et on aura enfin la réponse pour savoir si God of War a réussi à faire sa mue, s'ils réussissent à saisir cette opportunité de, pour peut-être la première fois dans cette histoire des jeux vidéo consoles, des grosses licences AAA, first party des consoles, on va réussir à avoir une licence qui évolue au-delà de son passé adolescent un petit peu premier degré, on va dire. Et on évoquait la Xbox, c'est un truc qu'ils n'ont pas vraiment réussi avec leur grosse licence, malheureusement, du côté de Microsoft. Mais même si les jeux étaient bons, on n'a pas senti une évolution des personnages et des licences. Donc on va voir si ils vont réussir du côté de chez Sony avec God of War. Pour donner un exemple de ce dont je parle, je dirais c'est une mue qui a réussi Tomb Raider, par exemple. Et dans une certaine mesure, Naughty Dog, ils ont réussi avec Uncharted. Si on considère les premières versions d'Uncharted, si on considère j'ai un trou. Insane Trilogy. Ça me reviendra. Bref, peu importe. God of War, 20 avril. Red Dead Redemption 2 a encore été décalé. Mais décalé du printemps au 26 octobre. Donc là, pour le coup, on a une date ferme. A priori, ça sera bon. Ça sera le 26 octobre. On a d'ailleurs des rumeurs selon lesquelles il y aurait un mode Battle Royale. On se doute qu'il y aura beaucoup de modes en ligne vu le succès de GTA Online. Mais... bon, là, on n'avait pas tous les détails. Il y aurait sans doute un mode Battle Royale, peut-être un mode first person, vu à la première personne, dans Red Dead Redemption 2. Bon, à voir. En tout cas, on aura les réponses en octobre. Sans doute qu'on en verra plus à l'E3. Anthem, par contre, le gros jeu de BioWare, donc de EA, a été décalé à 2019, sans doute premier trimestre 2019, pour rester dans l'année fiscale 2018 pour EA. Il n'empêche... On a beaucoup entendu que la période de l'automne 2018 était pas réaliste selon certains développeurs dès l'annonce du jeu au dernier E3. Mais s'ils vont le décaler, passer de novembre à mars, bon, ça donne quand même 5 mois. C'est pas un super long décalage, mais quand même, c'est 5 mois de plus, ça peut aider. Mais bon, le jeu ne sortira pas cet automne. On peut se poser la question de savoir si ils avaient prévu de mettre plein de loot box partout et que finalement ils veulent retravailler la chose. Bon, a priori c'est peut-être aussi le cas, mais il n'y a pas que ça qui a provoqué le retard. Et entre parenthèses, Star Wars Battlefront 2 a raté ses cibles de vente. Alors, il s'est quand même bien vendu, je me souviens plus des chiffres exacts, je crois qu'on est à quelque chose comme 11 millions au lieu de 12 ou un truc comme ça. C'est 9 millions au lieu de 10 ou 11, quelque chose comme ça. Donc, c'est au lieu de... Donc, 1 million en dessous. 9 millions au lieu de 10. Donc, Oh, c'est, ils ont raté leur cible, sans doute à cause des problèmes et des questions de lootbox, du scandale de lootbox. Donc la puissance de des joueurs s'est sans doute fait sentir. C'est pas non plus un flop total, hein. 9 millions pour un budget comme ça, c'est peut-être pas ce qu'ils espéraient, mais vu que un jeu comme Monster Hunter World à 5 millions ou 6 millions, c'est un énorme succès. Bon, 9 millions, ça va. C'est intéressant pour moi parce que on constate vraiment qu'on n'est pas dans les mêmes ordres de grandeur et dans les mêmes on joue pas dans la même catégorie, quoi. C'est un truc auquel les joueurs sont parfois un peu aveugles. Ils se disent oh ben un jeu c'est un jeu, t'en veux 2 millions ou 3 millions, c'est un succès. C'est pas les mêmes types de production, les mêmes types de budget. Je sais qu'on le dit beaucoup, mais les gens s'en rendent pas compte. Donc, un jeu comme Dragon Ball FighterZ à 2 millions, c'est un gros succès. Un jeu comme Battlefield 2, pardon, Battlefront, j'ai dit Battlefield, Battlefront 2, il faut qu'ils vendent plus pour être rentable. C'est une machine beaucoup plus grosse, c'est un travail beaucoup plus gros, une équipe beaucoup plus grosse. Et c'est vraiment quelque chose qu'il est important à intégrer quand on essaye d'analyser les problèmes que peuvent poser tel ou tel événement dans l'industrie. Donc, bref, voilà pour Anthem et Battlefront 2. Destiny 2, on a confirmé le fait que il y aurait une grosse extension cette année, donc en 2018 à l'automne, donc du type de The Taken King. Peut-être qu'ils vont réussir à corriger les défauts de Destiny 2 qui sont Dieu le sait, non pas Dieu seul sait, tout le monde le sait, assez nombreux, comme il l'avait fait avec Destiny 1. C'est une critique qu'on a assez fait l'année dernière, que Destiny 2 avait de manière absolument incroyable le même tâtonnement aveugle des développeurs que Destiny 1. Ils n'avaient visiblement rien appris. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est que le jeu s'est quand même hyper bien vendu, mieux que Destiny 1, et la première extension donc de décembre, c'est hyper bien vendu aussi. Donc il y a vraiment cette déconnexion, cette dissonance entre ce que disent les joueurs et ce qu'on peut entendre et ce qui est certainement ressenti sur les critiques qu'on fait sur Destiny et Destiny 2 et les jeux en général, et ensuite la réponse qu'on a des joueurs financièrement, et peut-être même que c'est un symptôme du fait qu'il y a beaucoup de joueurs très critiques qu'on entend beaucoup, et puis ensuite une masse de joueurs qui s'accommodent des jeux tels qu'ils sont. On peut parler de Battlefront dont j'ai entendu beaucoup de joueurs dire bah franchement il est sympa, ça marche bien, machin. Bon, entre parenthèses, les lootbox ont été retirés, donc et puis le jeu hyper adapté, mais il n'empêche, j'ai entendu beaucoup de gens qui étaient moins joueurs hardcore dire ah bah oui franchement il est sympa, lootbox c'est pas mon problème, machin. Donc dans ce cas-là, peut-être que Destiny 2 a aussi ce type de population où il y a une grosse masse de joueurs qui jouent et qui s'amusent avec ses potes le cœur des joueurs hyper assidus qui est beaucoup plus vocal. Alors évidemment, il faut faire attention à ces joueurs assidus parce que c'est votre cœur de joueur et il faut les contenter. Mais c'est intéressant de constater que financièrement, Destiny 2 a plus de succès que Destiny 1 lors de son lancement. Donc bon, voilà, ça remet un petit peu je dirais pas les pendules à l'heure, mais ça permet de, là encore, considérer les choses avec la réalité factuelle de ce qui se passe et pas la réalité fantasmée dans laquelle on peut tous un petit peu s'enfermer joueurs hardcore quand on n'a pas ces données-là, quoi. Donc voilà pour Destiny 2. Petite note supplémentaire sur GTA 5 pour dire qu'il dépasse les 90 millions de ventes, ce qui est, là encore, je disais, il a du succès avec GTA Online et le succès ne se dément pas. Donc évidemment, ils vont intégrer un mode comme ça dans Red Dead Redemption 2, mais 90 millions, il continue à se vendre. C'est incroyable le succès de GTA V. C'est l'un des phénomènes les plus notables du jeu vidéo, de l'histoire du jeu vidéo. Il faut se souvenir qu'il est sorti en, 2013, GTA V, je crois. Je vais vérifier ça en direct, mais c'est vraiment un truc. Alors attendez. Ah, 2000, oui, c'est ça. 2013 sur PlayStation 3 et Xbox 360. Alors ensuite, il est ressorti sur les consoles de cette génération, mais il n'empêche, c'est un jeu de 2013 qui continue à se vendre aujourd'hui de manière significative, quoi. C'est des millions et des dizaines de millions par an. Voilà. Donc GTA V, phénomène absolument incroyable de vraiment, je pense qu'on peut dire, de l'histoire du jeu vidéo. Quoi d'autre ? Parlons un petit peu des cartes graphiques, parce que on a vraiment un problème avec les cartes graphiques qui sont achetées à prix fort par les mineurs de crypto-monnaies qui ont besoin de puissance de calcul pour miner les crypto-monnaies. Et vu que les crypto-monnaies se vendent très très cher, ont une valeur très importante, eh ben c'est rentable pour eux d'acheter les cartes graphiques très chères, et donc ils les attrapent dès qu'elles sont disponibles, et ça fait monter les prix de manière absolument ridicule. Et donc, il y en a plus pour les joueurs. Aujourd'hui, trouver une carte graphique récente, une 1060, 1070 ou même 1080, quand on parle de Nvidia, c'est ceux qui sont principalement concernés par les ruptures de stock, eh ben on a des prix qui sont 50%, 100% plus élevé que le prix de base, quoi, parce que les crypto-mineurs les récupèrent, et du coup Nvidia travaille sur deux aspects de ce problème. D'une part, ils essayent de produire plus, ils essayent autant qu'ils peuvent, et d'autre part, ils essayent d'encourager autant qu'ils peuvent les revendeurs à ne vendre, à vendre en priorité aux joueurs plus qu'aux aux mineurs de crypto-monnaie. Pourquoi ? Parce que il y a deux choses. D'une part, c'est leur cœur de cible, les joueurs, donc ils veulent essayer de les contenter, évidemment, parce que des joueurs pas contents, c'est jamais bon pour le business. Et d'autre part, ils peuvent pas non plus se concentrer sur les crypto-monnaies, parce que le jour où les crypto-monnaies sont plus intéressantes, si jamais ça crash, c'est très volatile le cours des crypto-monnaies, si ça crash ou si ça devient moins financièrement intéressant, il faut bien comprendre qu'il va y avoir une énorme quantité de cartes graphiques super puissantes qui vont revenir sur le marché, et le prix va s'effondrer. Du jour au lendemain, ça peut arriver. Alors peut-être que ça arrivera pas, mais ça peut arriver. Et du coup, on va avoir toutes ces cartes graphiques hyper puissantes qui ont été achetées pour miner, qui vont revenir sur le marché en seconde main. Alors bon, ça sera pas la même chose qu'en achat neuf, mais il n'empêche. Et ça va du coup faire s'effondrer le prix et le marché des cartes graphiques elles-mêmes. Donc c'est un gros problème que Nvidia, et s'ils produisent énormément, s'ils se mettent à produire énormément aujourd'hui, ils peuvent se retrouver dans 6 mois, 1 an, le temps de lancer les processus de fabrication, ils peuvent se retrouver avec des stocks dont ils ne savent pas quoi faire. Ça peut être un énorme problème pour eux. Donc ceci dit, ils en sont conscients, ils essayent de trouver des solutions, mais c'est pas facile du tout, et c'est vraiment une conséquence intéressante du succès des crypto-monnaies sur les cartes graphiques en général. Voilà pour ce sujet. Passons aux rumeurs, aux petites news plus rapides encore. Bandai Namco travaille sur Metroid Prime 4. Alors, on a eu une rumeur selon laquelle c'était Bandai Namco Singapour, et c'était visiblement le cas jusqu'à il y a peu. Mais aujourd'hui, c'est Bandai Namco Japon qui a repris le flambeau. Alors Bandai Namco a déjà travaillé avec Nintendo, hein, donc c'est pas une surprise, c'est pas inattendu, ou en tout cas c'est pas comment dire, quelque chose de d'inhabituel. Et donc ils travaillent avec Nintendo pour Metroid Prime 4. C'était Bandai Namco Singapour qui avait le projet en main. On le savait parce que, comme souvent, on a vu dans les profils LinkedIn ou les CV des développeurs qu'ils travaillent sur un gros titre non annoncé sur Switch. Et il y en a même un qui a dit « gros titre, first party, first person shooter sur Switch ». non annoncé. Là, tu dis first party, enfin first party ou comment. Oui, forcément, il y a que Metroid Prime 4. Bref, il y a quelques jours à peine, je crois même que c'était hier, on a entendu une autre rumeur confirmée par Eurogamer, qui est la source d'origine de la rumeur et qui est assez fiable. Et ils disent que leurs sources elles-mêmes sont fiables. C'est Namco Bandai Japon, Bandai Namco Japon qui a repris le projet, qui est devenu lead, et du coup Bandai Namco Singapour se concentre sur un autre jeu Switch. Donc, bref, l'autre élément intéressant, c'était que ils ne se sont pas, ils ne pensent pas le sortir en 2018. Donc tous ceux qui espéraient voir, enfin, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ah mais si, il a été annoncé plus ou moins 2018. Visiblement, seront ces rumeurs-là, ça serait plutôt 2019. Donc voilà, vous savez à quoi vous en tenir. Epic a annoncé qu'ils allaient arrêter le développement de Paragon. Vous savez, c'est ce MOBA vu à la troisième personne 3D qu'ils avaient lancé il y a maintenant un an. Peut-être même plus longtemps, ça doit faire 2 ans. Encore une victime du trop-plein de hero shooters ou de d'essais de transformation du concept MOBA sous différentes manières en 3D. Il faut noter aussi, enfin ils le disent eux clairement, que c'est le succès de Fortnite, et par Fortnite on entend Fortnite Battle Royale, qui les pousse à dire bon bah Paragon n'a pas trouvé son public, Fortnite marche super bien, on va arrêter la casse, on va se concentrer sur Fortnite et le mode Battle Royale, et peut-être sur d'autres choses, hein, mais Paragon n'a clairement pas trouvé son public, donc voilà, malheureusement, encore une des victimes. On se souvient que Battleborn était une autre victime, et puis il y en a même d'autres également. Et d'ailleurs, Fortnite a eu 3,4 millions de joueurs en même temps, concurrents, ce dimanche, ou c'est dimanche dernier, je sais plus, oui, ça devait être dimanche dernier, avant qu'ils ne crachent parce qu'il y avait trop de charges sur leur serveur, et 3,4 millions. Alors évidemment, Fortnite Battle Royale, le mode Battle Royale est accessible gratuitement, donc c'est très différent de PUBG. Oui, entre parenthèses, PUBG, je l'ai pas évoqué, mais on a évoqué aussi la vente de, le rachat de PUBG Corp par Microsoft. Ce qui est un petit peu boiteux parce que PUBG Corp appartient à Bluehole et du coup, est-ce qu'ils voudraient s'en séparer alors que c'est leur plus gros succès planétaire? Je suis pas convaincu et bon, bref, ça me paraît moyennement certain ce rachat-là. Mais donc, PUBG a fait moins que 3,4 millions de concurrents, mais évidemment, PUBG est payant, donc c'est un petit peu des pommes et des oranges. Ça, c'est juste que ça confirme le succès insolent de Fortnite. Des développeurs de Stalker ont annoncé eux aussi un jeu Battle Royale qui s'appelle Fear the Wolves. Stalker, c'est Vostok Game. C'est une équipe de développeurs de Stalker. Bref, eux encore, ils annoncent un Battle Royale. Je sais plus qui d'autre avait annoncé un Battle Royale où ils pouvaient avoir genre jusqu'à 1000 joueurs. On commence à rentrer dans le domaine des gimmicks, des Battle Royale à gimmicks. Genre, nous, on fait un Battle Royale, mais il a tel truc qu'ils n'ont pas dans tel autre ou dans tel autre type de jeu. Ou nous, on fait un Battle Royale, qui fait ça ou qui fait ci. Ou bon, clairement, le Battle Royale est un mode qui est établi. Et puis pour conclure, je voulais évoquer deux sujets un petit peu plus franco-français. D'une part, l'enquête sur Quantic Dream qui a fait couler beaucoup d'encre il y a quelques semaines de ça. C'est une enquête conjointe entre Canard PC, Mediapart et Le Monde qui était vraiment... pas à charge, c'est pas du tout ce que je voulais dire, mais qui a fait beaucoup de bruit et qui, au contraire, elle était pas à charge, elle était très équilibrée, cette enquête. Et dans les articles, on avait des... Je donne pas les détails parce que je pars du principe que vous en avez entendu parler, mais peut-être que je devrais pas. En gros, c'était une enquête qui mettait à jour des pratiques assez... critiquable chez Quantic Dream. D'une part, des pratiques de crunch, cette période du développement qui est toujours problématique parce qu'on travaille énormément et donc on fait énormément d'heures supplémentaires à moitié optionnelles, on va dire. Et d'autres éléments un petit peu on va dire là encore critiquable, évoqué chez Quantic Dream. Ça a fait beaucoup de bruit. Le net a réagi de manière assez violente, comme souvent. Là encore, il y a des éléments importants à pointer du doigt, c'est que les enquêtes sont équilibrées. Je dirais, l'enquête ne peut pas être balayée d'un revers de la main. Il y a des gens qui disent « Oh, voilà, c'est les journalistes qui veulent enterrer les machins », mais c'est des organismes de presse hyper sérieux qui ont fait une enquête sérieuse, étayée par des témoignages, et équilibré. J'insiste sur ce point parce que il y a beaucoup de gens qui ont lu que les titres, mais dans l'enquête elle-même, on a à la fois des gens qui disent les choses se passent de manière inacceptable chez Quantic Dream et il y a des charges de travail insolentes. On a une gestion dictatoriale du studio par David Cage, qui entre parenthèses, c'est un développeur avec une vision un petit peu artistique, et évidemment on peut voir les choses de cette manière, et il est certain que quand il veut quelque chose, bah il le veut d'une certaine manière, donc peut-être que ça peut être considéré comme despotique par d'autres, mais même dans les articles, il donne la voix à des développeurs qui font encore partie du studio. Les développeurs, évidemment, qui font les critiques les plus acerbes, sont des gens qui sont partis du studio et dont on pourrait imaginer qu'ils ont. On peut tout à fait imaginer que c'est des critiques parfaitement valables et fondées sur la réalité, mais on peut aussi imaginer que ce soit des expériences négatives et des gens qui sont un petit peu remontés contre le studio. Et on a aussi des développeurs du studio qui disent non, c'est des l'ambiance est bonne, on a un studio à ambiance familiale et on travaille tous ensemble dans un but commun. Donc on a beaucoup entendu les critiques, et je veux mettre en exergue le fait qu'elles ont leur pendant dans les articles eux-mêmes. Donc il n'y a pas de jugement définitif, mais il pose simplement une question qui est importante à poser, et que c'est un travail sérieux. Et d'un autre côté, on a la réponse de Quantic Dream qui est là encore très remontée, et qui pour moi fait une réponse qui est plutôt malhabile en prenant l'angle voilà, c'est des journalistes qui font des articles à charge justement et qui veulent nous enterrer. Et ce qui pour moi, c'est pas du tout la bonne manière de dire les choses, parce que encore plus aujourd'hui que par le passé, le travail des journalistes est important. On l'a vu dans les élections présidentielles de l'année dernière. C'est quelque chose comment dire, le travail des journalistes est important, et on n'est pas non plus dans le même contexte où je pense que, pour dire les choses clairement, dans l'affaire Fillon, on avait des faits qui n'étaient pas jugés par la justice encore, mais qui étaient plutôt avérés et qui étaient difficiles à contester, et qui n'étaient pas vraiment contestés en fait. Les défenses se faisaient plus sur l'attaque des journalistes que sur la contestation des faits eux-mêmes. Donc là, on est dans un cadre également où les journalistes ont fait une enquête sérieuse, où l'établissement des faits est mesuré et où il faut ensuite, on peut avoir quelque chose de plus serein, laisser la justice faire son travail. Et Quantic Dream d'ailleurs note le fait que les décisions de justice se sont faites en leur faveur, c'est-à-dire que les ex-employés qui, jusqu'à maintenant en tout cas, dans les cas qui ont été présentés à la justice, les ex-employés qui faisaient des accusations ont été déboutés par la justice. Il y a encore une affaire en cours, mais bon, on verra comment ça se goupille. Donc, il faut vraiment raison garder, c'est ce que je dis tout le temps dans toutes ces histoires, et on me le reproche parfois, où je me retrouve entre deux camps hyper énervés et à dire « Oula, du calme, toi vois aussi le côté de l'autre côté, et toi vois aussi le côté de l'autre côté ». Donc j'ai souvent cette position où on m'accuse d'être partisan des horreurs de ce qui se passe en face, en fait. Mais en fait, moi, je suis juste au milieu en train de dire « Oula, du calme, voyons les choses de manière posée ». Ça a été le cas, d'ailleurs, dans le contexte des débats sur les lootbox. Dans ce cadre précis, je crois que on peut laisser à la justice faire le son travail avant de se d'accuser. Voilà, c'est comme si, c'est comme ça. On peut aussi essayer de voir comment ça se passe pour les gens qui comment dire. Voir les choses de l'autre côté. Il y avait un article intéressant d'ailleurs dans Gamekult chez les premiums qui détaillait ce que risquait Quantic Dream si la justice jugeait qu'ils avaient contrevenu à la loi. D'ailleurs, il y a des éléments où il y a des pratiques pas hyper morales, comme des démissions arrangées et puis on se réengage derrière. Ça, c'est pas illégal et ça se pratique d'ailleurs ailleurs. Mais je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que c'est un petit peu limite au niveau de la moralité de la combine. Mais dans le même article, l'avocat en question disait cette pratique du crunch qui est très souvent critiquée dans le monde du jeu vidéo, elle n'est pas exclusive au monde du jeu vidéo, contrairement à ce qu'on peut penser nous joueurs. Il y a toujours avec ces œillères qu'on a tendance à avoir. Il y a par exemple le travail des avocats qui finissent un gros projet pour un gros jugement ou un gros, bon, peu importe, où ils vont là aussi travailler comme des fous pendant quelques semaines ou quelques mois et pour avoir l'opportunité de faire leurs preuves, de faire avancer leur carrière. Et alors là, c'est pas moi qui parle, mais je paraphrase l'avocat qui évoquait la chose dans l'article. Il disait, il serait injuste de ne pas pouvoir donner aussi dans le monde du jeu vidéo l'occasion à ceux qui veulent travailler particulièrement dur à un moment de leur carrière pour avancer plus vite, de le faire dans le cadre évidemment des limites imposées par la loi. Donc bon, voilà, cette histoire est un petit peu plus complexe qu'il n'y apparaît à l'origine quand on lit que les gros titres, et ça peut avoir des conséquences importantes, et c'est pour ça qu'il faut raison garder. On a vu par exemple qu'une élue, une conseillère de Paris du 20e arrondissement a demandé, a souhaité que il y ait une enquête diligentée par la ville de Paris sur les montants perçus par Quantic Dream pour les aides, les subventions nationales, etc. Suite à cet article qui, alors, je comprends qu'on veuille que les choses soient faites de manière carrée, mais encore une fois, là, on est dans un contexte où les choses ne sont pas clairement à charge contre Quantic Dream. Donc, le fait que Quantic Dream s'offusque de la chose pour leur image d'une part et pour les conséquences que ça peut avoir de ce type-là d'autre part, me semble pas non plus... Pour moi, ils le font pas de manière... ils le font pas de la bonne manière en attaquant la presse, c'est pas du tout la bonne manière de faire, mais je comprends qu'ils paniquent et qu'ils se soient très préoccupés par ce type de rumeurs et de, pas de rumeurs, mais enfin d'accusations et de bad buzz qui est en train d'être généré. Parce que ça peut avoir des conséquences réelles. Peut-être que demain, les aides qui vont être attribuées le seront par des comités qui vont pas aller dans le détail des enquêtes et des jugements et qui vont se dire « Oula, Quantic Dream, on en a entendu parler, c'est les gars qui exploitent leurs employés, qui ont un président despotique, ouais, bon, on va peut-être éviter de leur donner de l'argent, de les aider. » Alors que, bon, voilà, les choses ne sont pas aussi tranchées. Donc, c'était mon petit jugement, mon petit laïus sur le sujet. J'espère que ça vous aura apporté un petit éclairage, peut-être un petit peu différent par rapport à ce que vous aviez entendu sur cette histoire-là. Et enfin, une nouvelle potentiellement bonne, sympa pour les Parisiens et pour les amateurs de festival, c'est un festival dérivé de la PAX qui va se tenir à Paris en 2018. Ça s'appelle Play, Powered by PAX. Alors la PAX, vous la connaissez peut-être, c'est la Penny Arcade Expo. C'est une série d'expositions qui sont issues du webcomic Penny Arcade, qui sont plutôt pour les gamers geeks, peut-être même comics en général, et c'est une exposition que je connais un tout petit peu parce que j'ai eu l'occasion d'assister à la PAX East il y a quelques années, et c'est vraiment une ambiance très sympa, très comment dire, c'est beaucoup plus communautaire que les grosses expos qu'on peut avoir. C'est une ambiance beaucoup plus humaine. Alors, il faut voir là si Play est pas juste un truc dont ils ont acheté la licence à la PAX et puis ils vont faire un truc complètement différent. Mais s'ils réussissent à recréer ce type d'ambiance, je pense que ça pourrait être assez sympa. C'est très authentique. Voilà, c'est le terme qui, je pense, est approprié. On avait eu des Comic-Con Paris qui étaient avec plus ou moins de succès. Mais peut-être que là, ça pourrait être un nouveau festival qui pourrait être sympa, quoi. Donc, ça sera... Je crois qu'on n'a pas la date précise. Généralement, c'est au printemps. On aura plus de... plus de détails dans quelques jours, cette semaine. Donc, on en saura un petit peu plus. Voilà pour toutes les news que je voulais couvrir. Je pense que ça a fait un petit épisode bien sympathique. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, avec ma douce voix dans vos oreilles. N'hésitez pas, comme toujours, à venir me dire ce que vous avez pensé de tout ce dont on a parlé, tout ce que j'ai évoqué, dans les commentaires de l'émission, sur Twitter ou Facebook, évidemment. Ça fait toujours plaisir d'avoir vos impressions et de vos nouvelles. Et pour les patriotes du rendez-vous tech, ben sur le Slack, bien sûr, du rendez-vous jeu, je prends toujours beaucoup de plaisir à vous lire, même si j'ai pas forcément le temps de vous répondre en ce moment, vu que le bébé, entre parenthèses, il a un petit peu des coliques, donc un petit peu beaucoup, donc c'est aussi pour ça que ça me prend encore plus de temps que ne le prennent les bébés normaux, enfin normaux, il y a plein de bébés qui ont beaucoup de coliques, mais ouais, il a du mal à dormir, il a du mal à s'endormir, il crie beaucoup et il a très mal, le pauvre petit bout, et donc il garde ses parents réveillés au milieu de la nuit, et j'ai déjà eu un certain nombre d'heures à le prendre dans les bras, à essayer de le faire arrêter de pleurer pendant qu'il hurle dans les oreilles. C'est une ambiance particulière, on va dire, dans la maison Béja en ce moment. Je suis sûr que ça va faire sourire beaucoup d'entre vous qui ont connu ça. Et peut-être faire peur à certains d'entre vous qui n'ont pas encore connu ça. Bref, voilà pour cet épisode 78 du Rendez-vous Jeu. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous fais de grosses bises et je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite de nos aventures. Ciao à tous.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.